Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ici, dans cette émission, Ça commence par nous, on vous donne des pistes pour changer le monde un petit peu tous les jours. Promis, pas de blabla, à la fin de l'émission, vous aurez tout un tas de solutions à mettre en place tout de suite et sans contrainte pour agir au quotidien. Et quand je vous dis qu'on vous propose des solutions accessibles pour tous, c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on va vous parler de votre argent. Saviez-vous que cet argent que vous laissez à la banque, il peut vous servir à construire un monde meilleur? À l'inverse, est-ce que vous saviez que cet argent, il pollue et que parfois, sans qu'on vous demande votre opinion, il est utilisé pour financer des forages pétroliers, du nucléaire, des déforestations ou même de l'armement? Heureusement, nos invités vont nous aider à y voir plus clair en la matière et nous présenteront des projets qui, eux, font bouger les choses dans le bon sens. On recevra notamment Clémence Lacharme de Carbone 4 et Romain Donnedieu qui viendra nous présenter la Nef et Zest. Sur le plateau avec moi, il y a Hélène Dédény qui nous parlera de Zero Waste et Anne-Sophie de One Art, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et allez, aujourd'hui, on parle de comment changer le monde grâce à notre argent. Et vous avez vu, en bon français, je commence à l'émission. On parle d'argent. Je suis déjà en train de m'étouffer. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On accueille tout de suite Clémence Lacharme de Carbone 4. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Alors Carbone 4, c'est le premier cabinet de conseil spécialisé sur les questions de transition énergétique.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on est un cabinet d'à peu près 40 personnes et on travaille sur les sujets de transition énergétique, sur les sujets énergie et climat pour les différentes entreprises, les collectivités. Les banques également et les différents investisseurs financiers. Donc quand on parle de transition énergétique, c'est un vaste mot aujourd'hui, mais nous on va travailler surtout sur les questions d'empreinte carbone, notamment tout ce qui est bilan carbone des entreprises. Donc c'est un indicateur qui est assez pertinent pour mesurer leur contribution au changement climatique, mais on va également réfléchir avec elles à comment on peut les aider pour faire évoluer leur business model pour qu'elles puissent être compatibles avec un monde où le réchauffement climatique se limite à 2 degrés.
On passe son temps à dire, vous les citoyens, qu'est-ce que vous faites pour changer le monde? Mais là, tu es en train de nous dire que, en fait, les entreprises aussi, elles ont un impact sur l'environnement.
Oui, toutes les entreprises ont un impact sur l'environnement puisqu'elles vont, pour leur activité, émettre du CO2 sur les consommations énergétiques pour les bâtiments, mais également sur toute leur chaîne de valeur. Donc, ça va être la chaîne de valeur amont. Donc par exemple, si je suis un producteur d'équipements de voitures, j'aurai besoin de matériaux pour produire mes équipements. Et après, ces équipements, ils vont rouler dans des voitures. Et ça va bien sûr émettre des émissions sur cette chaîne de valeur.
On parle de voitures, l'exemple est parfait. Tout de suite, on imagine la pollution, les émissions de CO2. Mais ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que le monde de la finance, il pollue.
Oui, donc on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas quelque chose qu'on voit au quotidien. On voit juste les agences au coin de la rue. Donc il y a cette partie qui va polluer. Donc ça va être toute l'activité de la banque, les locaux, les différents serveurs dont elle se sert pour gérer les différentes transactions financières, nos comptes.
Une pollution énergétique.
C'est ça, elle va consommer de l'énergie. Mais il y a la plus grande partie, en fait, des émissions carbone, des émissions de GES, qui est réalisée, en fait, sur son cœur même d'activité. Ça va être les financements, dans quelles entreprises elle investit, et également tous les crédits qu'elle délivre en fonction, des entreprises dans lesquelles elle va vouloir délivrer des crédits.
Et justement, quand on parlait de toute la machinerie qu'il y a derrière, en fait, une simple transaction, on a du mal à s'imaginer que ne serait-ce qu'en payer avec sa carte bleue, ça génère des gaz à effet de serre, justement. Alors, est-ce qu'une de vos recommandations serait d'utiliser plus de cash ?
Oula, alors pas forcément, parce que de toute façon, pour utiliser des billets, il va falloir les produire également, il va falloir les imprimer, il va falloir les transporter d'un point A à un point B. Donc c'est pas forcément beaucoup plus pertinent. C'est un peu la même question quand on se pose, enfin quand on se demande, est-ce qu'il vaut mieux imprimer des documents et lire du papier ou finalement rester sur tablette.
Vous avez apporté des réponses là-dessus, je crois. J'ai vu à partir de 30 minutes de lecture en ligne, il vaut mieux imprimer un document sans utiliser des impressions, enfin des lettres comme Arial, voilà, des polices qui sont très gourmandes en impression, mais plutôt Garamond, par exemple.
Voilà, en fait, ça va. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas, on a souvent une idée préconçue qui est de se dire finalement, faut pas imprimer, alors que dans certains cas, il vaut mieux
bien
aller
sûr,
acheter un
sûr.
Bon
c'est,
livre.
C'est plus compliqué, mais bon, ce que tu disais aussi, c'est que les banques, leur pollution, l'émission de CO2, elle vient plus de leur placement et de tout ce qu'il y a à côté de nous, le flux financier dans lequel on est impliqué finalement.
C'est ça, en fait. 99% des émissions qui sont reliées à une banque viennent en fait des financements qu'elle réalise. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, nous, on a fait une étude où on regardait en fait la part donc, des émissions d'une banque. Si on regarde que son activité voilà, de consommation énergétique sur ses locaux, sur ses différents serveurs, on est à peu près à 4 tonnes de CO2 par million d'euros.
Bah,
on va parler avec cet indicateur-là. Et si on regarde les investissements également, vraiment toute son activité, on est entre 200 et 400 tonnes de CO2 par million d'euros. Donc
ouais.
Voilà, on change complètement d'échelle.
Du simple au centuple.
Voilà, ouais. Exactement.
Et donc du coup, la question c'est, toutes ces millions de tonnes, qu'est-ce que ça représente concrètement? Si on devait comparer le secteur financier aux gros autres secteurs qui sont les plus polluants, on pense notamment à celui du pétrole, à celui textile aussi. Est-ce que c'est un petit pousset? Est-ce que finalement, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on imagine?
Alors, non, c'est pas du tout un petit pousset. C'est vraiment un secteur qu'on va considérer, nous, comme étant à fort enjeu, sur lequel il y a vraiment besoin de mettre en place des politiques de réduction. Quand on va regarder le secteur de l'immobilier, on est plutôt autour de 160 tonnes de CO2 par million d'euros, alors que oui, quand on regarde le secteur de l'énergie, donc y compris notamment les énergies fossiles, on est autour de 2000 à 2600 tonnes de CO2. Donc peut-être pour vous donner un ordre de grandeur plus proche des banques, c'est assez similaire au secteur du transport. Donc tout transport confondu en fait, donc c'est assez comparable.
Ah oui, donc du coup on est tout le temps en train de dire attention à ne pas prendre l'avion, mais finalement prendre une banque plutôt qu'une autre serait une incidence, d'autant que j'ai l'impression que toutes les banques ne sont pas aussi vertueuses dans ce domaine, non?
Alors oui, forcément, il y a certaines banques qui sont plus sensibilisées aux enjeux, en tout cas climat, et même plus largement aux enjeux de l'environnement. Aujourd'hui, c'est un peu difficile encore de les classer puisque elles vont reporter différentes informations, mais les informations relatives à l'impact climat, aujourd'hui, ça ne fait pas partie des obligations réglementaires. C'est en train d'être mis en place par l'Union européenne. Il y a des réflexions en ce moment pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, chaque particulier, puisse voir l'impact des différents investissements qu'ils réalisent dans les banques. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas.
On parle d'écologie depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, tu as des informations? Parce qu'au tout début de l'émission, je disais que l'argent, il était utilisé pour le nucléaire, pour la déforestation. Est-ce qu'il y a aussi cette notion éthique que vous creusez à Carbone 4?
Alors oui, forcément, on va regarder aussi les différents secteurs, pas que en lien avec le climat. On va également avoir une partie un peu plus qualitative où on regarde si les banques ont des secteurs qu'on pourrait appeler excluant. C'est notamment par rapport au label tech. Donc, c'est un label en finance qui, en gros, a découpé l'ensemble de l'économie en différents secteurs et a fléché des secteurs à fort enjeu pour la transition énergétique. Et il y a également des secteurs d'exclusion. Donc, on va regarder, bien sûr, les secteurs d'exclusion également.
On a toujours le prisme de parler à nos auditeurs et d'être sur le niveau de l'action citoyenne. Je suis très content d'avoir reçu dans cette émission Clémence, parce que tout de suite, on se dit que laisser notre argent dans une banque, c'est pas comme être au Far West, on ouvre un coffre, on met son argent, on le ressort. On est d'accord que l'argent qu'on met dans nos banques, il a un poids sur l'environnement et il a un poids aussi presque géopolitique.
Oui, bien sûr qu'il a un poids sur l'environnement et il ne faut pas déresponsabiliser les petits épargnants comme nous. En fait, chaque euro qu'on met au sein d'une banque, il va être, après, il va alimenter énormément d'entreprises, et y compris des entreprises, comme tu le disais, sur l'armement, sur le nucléaire. Donc, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités sur ce sujet.
Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Clémence. On te retrouve, nous, tout à l'heure pour le débrief. Pour rappel, tu fais partie du cabinet de conseil Carbon 4. Si vous voulez en savoir plus sur ce cabinet, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet www.carbon4.com, et on vous donnera bien évidemment toutes les informations utiles sur le groupe Facebook Ça commence par nous. Allez, tout de suite, une première pause musicale.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on parle de comment changer le monde avec son argent.
Ça commence par nous.
Et oui, comme je vous le disais, hein, aujourd'hui, on parle d'une finance plus éthique et plus écologique. Et on accueille tout de suite Romain Donnedieu, directeur régional de l'ANEF. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors, vous, chez l'ANEF, vous avez décidé ni plus ni moins d'ouvrir la voie vers une banque plus éthique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, une banque plus éthique, bon, on parlait de responsabilité juste avant. L'idée d'une banque éthique, c'est essayer de permettre à chaque épargnant d'exercer sa responsabilité en tant qu'épargnant. Et exercer sa responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire savoir précisément à quoi sert son argent et essayer de faire en sorte, nous, que cet argent soit orienté vers des projets d'utilité sociale, environnementale, culturelle, donc des projets qui ont un impact positif sur l'environnement, sur la société, et d'exclure du coup de facto toute activité qui a un impact négatif fort sur la société et l'environnement.
Donc un travail autant sur le comment que sur le pourquoi. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes une coopérative financière et en plus vous avez comme objectif de soutenir des projets qui ont une utilité soit sociale, soit écologique et ou culturelle, peut-être même tout à la fois.
Ouais, c'est ça. On est une coopérative déjà, donc il y a 40...
C'est important de le dire, ça.
C'est important de le dire parce que c'est quelque chose qui différencie la NEF des autres. Alors même si d'autres banques ont le statut coopératif, nous on essaie de le faire vivre au quotidien. Donc chaque année, on réunit nos sociétaires, nos 40 000 sociétaires lors d'assemblées locales, une assemblée générale où, sur le principe une personne, une voix, chacun va participer aux décisions stratégiques de la coopérative. On a des sociétaires qui s'engagent comme bénévoles. Qui vont, voilà, c'est quand même assez original de...
C'est carrément original, non, mais c'est, des fois on a l'impression que c'est tellement simple qu'on le dit pas, mais quand même, je t'interromps, excuse-moi, mais ouais. C'est bien de dire qu'il y a des banques qui ne sont pas classées en cotées en bourse par exemple, on est d'accord,
ouais.
Hein, et donc là on est en train de dire ça, c'est quand même très fort.
Ah ouais, tout à fait, il y a des, encore aujourd'hui des petites structures bancaires d'une centaine de salariés, de 40 000 sociétaires qui essayent de d'être dans le métier d'intermédiation bancaire le plus simple, c'est-à-dire collecter de l'épargne et faire en sorte que ces projets, enfin cette épargne permette de financer des projets positifs voilà, sur l'environnement, la société.
Et ces projets, comment vous les choisissez ?
Alors, on n'a pas de grille de scoring hyper développée comme on peut en trouver ailleurs. Ça fonctionne déjà beaucoup par les réseaux parce que la NEF... évolue pas dans un milieu vraiment fermé. On est membre d'un collectif, par exemple, qui est le collectif pour une transition citoyenne, qui regroupe tout un ensemble de structures qui agissent dans tout un tas de domaines de l'économie. Et donc, ces projets, ils viennent souvent déjà de ces réseaux partenaires-là. Ils viennent de nos sociétaires aussi, qui parlent le bouche à oreille en parlant de la NEF, comme établissement financier alternatif. Vont se rapprocher de nous parce qu'en fait, c'est en cohérence avec leurs valeurs. Et nous, on va s'intéresser à savoir quelles sont les motivations vraiment des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprise que l'on a en face de nous. Ça, c'est la première question que l'on pose à quelqu'un quand il vient nous voir pour solliciter un crédit, c'est votre entreprise, à quoi elle sert pour la société, à quoi elle va servir d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, d'un point de vue pédagogique. Et ensuite, on va s'intéresser à la viabilité économique du projet, évidemment, mais la première question, c'est quelles sont vos motivations ?
Donc une banque qui a du sens, une banque qui soutient la société de demain. J'imagine que tous les Français ont un compte à la NEF.
Oui, c'est quasiment. Évident. Voilà, on est bon, 40 000. Alors, il reste un peu de chemin pour arriver à tous les Français. Mais blague à part, l'idée, c'est pas de conquérir le monde bancaire, mais c'est d'essayer aussi, à notre modeste échelle, de faire évoluer pas à pas la pratique dans le milieu, dans les milieux financiers, qui est encore empreinte de beaucoup d'opacité. Je pense que même si on parle de livret de développement durable, de choses comme ça, en réalité, on ne sait pas à quoi sert son argent quand on place son argent sur un livret de développement durable. Et ben nous, on veut montrer que c'est possible et que ça marche et qu'une banque qui fonctionne de cette manière-là, elle est viable.
Très concrètement, une personne nous écoute et se dit « Bon, allez, allons-y, qu'est-ce qui se passe ?» Ils veulent passer à la NEF, ils veulent avoir cette plus-value. Comment ça se met en place et quelle est la plus-value très concrète pour la personne qui va mettre son argent à la NEF ?
Alors la plus-value très concrète, on pourrait l'illustrer déjà avec ce livret. Ça c'est vraiment le principe de transparence mis en application. C'est-à-dire que chaque année, on va publier la liste des entreprises que l'on a accompagnées pendant l'année écoulée. Donc là, il y a les 400.
On est à la radio, donc c'est un livret où on écrit en gros « Où va mon argent en 2017 hein ?»
Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un livret qu'on publie, qui est accessible sur le site internet de la NEF, qui est en version papier aussi. Et on va avoir un petit laïus de chaque entreprise qui a été accompagnée. Donc il y en a eu 400 en 2017 qui ont bénéficié d'un prêt de la NEF. On va indiquer quel est le montant de financement qui a été accordé à cette structure-là. On va mettre les coordonnées de l'entreprise, donc on pousse la démarche de transparence le le plus loin possible pour que chacun puisse se dire concrètement, moi, en plaçant 2000 euros sur un livret à la nef, j'ai pu soutenir une activité de maraîchage biologique dans l'Eure, j'ai permis la création d'une entreprise engagée dans le domaine de l'économie circulaire dans le Nord, j'ai permis l'installation d'une centrale photovoltaïque dans le sud de la France avec une dimension citoyenne où les citoyens investissent par ailleurs dans le projet. La plus-value, elle est surtout là, elle n'est pas tellement financière parce que placer son argent à la nef, ce n'est pas particulièrement rentable, ce n'est pas très différent que dans les autres banques de toute façon en ce moment parce que les taux sont tous au ras des pâquerettes, mais elle est surtout vraiment sur cette question de responsabilité, de
mais
savoir
alors,
à quoi sert son argent.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, pour le moment, vous n'avez pas de compte courant, c'est pas, vous allez fermer tous vos comptes et demain, vous allez vous ruer à la nef, comme j'ai tenté de le faire, avec échec cuisant, parce que c'est encore une petite structure et c'est pas si simple. Et même pour les entreprises ou les associations, quand j'ai voulu déposer le compte d'association EDENI, c'est d'abord réservé à ceux qui ont fait un prêt auprès de la nef pour le moment. C'est ça, mais est-ce que vous avez d'autres partenariats? Quelles sont l'évolution, la situation actuelle et l'évolution envisagée?
Ouais. Alors, on n'avance pas à pas. La nef, elle a 30 ans. Elle a commencé vraiment en faisant de la collecte sur des comptes à terme, placés sur des durées plutôt longues, de 2 à 10 ans, en finançant des projets sur des durées longues aussi. Donc, historiquement, on ne faisait pas du tout de compte courant. Depuis 3 ans, on travaille activement à essayer de devenir une banque. Donc, devenir une banque, ça veut dire fournir des services de banque du quotidien. Des services de compte courant pour les particuliers, pour les pros, des services de financement aussi sur des durées plus courtes pour accompagner les besoins de trésorerie, par exemple, des entreprises. Ça demande beaucoup de boulot pour une entreprise, une banque comme la nef de 100 salariés. Hein. Il faut bien voir qu'on est, même si on entend parler un petit peu de nous, on est une goutte d'eau en taille par rapport aux autres banques. Et donc, ça génère beaucoup d'attentes. Il y a 2 ans, quand on a annoncé que ça y est, on avait enfin créé et lancé sur le marché un compte courant pour les professionnels. On a été un peu débordé par l'afflux des demandes et donc je pense que l'une des victimes. Et nous aussi du coup parce qu'on s'est rendu compte que la demande et les attentes étaient vraiment importantes et qu'on ne pouvait pas toutes les gérer. Donc pour l'instant...
Mais c'est bon signe. C'est
bon signe. C'est super bon signe et c'est vachement encourageant pour moi.
Postuler salarié, à la nef.
Voilà, salarié de la nef, de sentir qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de l'attente et qu'on essaie de répondre progressivement à cette attente. Mais ça prend du temps parce qu'on est dans le milieu bancaire et le milieu bancaire, c'est un milieu qui est très réglementé, dans lequel on est très contraint. Et quand on est une petite structure qui évolue dans un monde de mastodontes, parce que les banques en fait, de la place aujourd'hui, c'est des structures de plusieurs dizaines de milliers de salariés, de plusieurs dizaines de milliards de taille de bilan. Voilà, nous, on est tout petit et il faut qu'on arrive à se mettre en conformité dans ce milieu-là. Donc, on avance pas à pas. Mais j'espère que dans un an ou un peu plus, mais pas trop non plus, on pourra répondre à la demande d'associations qui veulent venir mettre leur argent à la nef parce qu'il y a de l'attente.
Justement, ces mastodontes, comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils ils sont impressionnés? Ils sont dédaigneux? Ils vous tendent la main?
Ouais, je pense qu'il n'y a pas de caricature dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, à mon avis, on est encore un peu trop petit pour les inquiéter. Ça, c'est une première chose. Cela étant dit, on voit bien que ce que l'on fait, c'est loin d'être à côté de la plaque et que ça répond à une vraie attente parce que il y a aujourd'hui pas mal de banques qui se mettent à proposer des produits d'épargne solidaire, à faire de la communication autour des circuits courts, sur le fait que placer son argent dans telle ou telle banque, c'est financer de l'économie locale. Donc de répondre à ce besoin de responsabilité des épargnants. Alors après, il faut faire la part des choses entre le greenwashing de certains qui vont cultiver un peu l'impact que ça va avoir en termes de com, l'impact positif pour capter de nouvelles clientèles, et voir d'autres structures qui s'engagent peut-être un peu plus profondément dans une démarche de changement. Et si nous, on peut aider à transformer progressivement le modèle de la finance bancaire en France, et ce sera une victoire pour nous aussi, parce qu'on ne va pas tout faire, nous, tout seuls, dans notre coin.
Mais vous êtes un peu les éclaireurs de cette finance, justement, plus éthique, plus solidaire, plus vertueuse, plus durable. Toutes les informations pour les personnes qui n'avaient jamais encore entendu parler de la nef, c'est sur lanef.com. Nous, Romain, on va continuer à creuser ensemble ces questions de la finance éthique et écologique, mais tout de suite, on marque une nouvelle pause musicale.
hot. Tell me who rock, who sell out in the stores. You tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got blocks, who mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells for the level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no PD, niggas hold me down. Cuda, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, nigga, spend no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. Call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Nigga never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Violate me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike's to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, nigga C, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500. Here's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Vizak, dangerous, on Trizak, leave your ass Pizzak.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Retour dans les années 1997. Merci Raphaël pour la petite dédicace, super musique. On est bien de retour dans l'émission Ça commence par nous. Tout de suite, c'est le moment zéro déchet. Je laisse le micro à Hélène, la fondatrice d'Edeni, le zéro waste positif. Salut Hélène.
Salut Julien.
Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, commençons par la base sur l'industrie bancaire qui est donc génératrice de beaucoup de déchets via l'électronique dont elle dépend. Et donc même un simple paiement par carte bleue génère du CO2, hein, tout comme une recherche Google. Alors moins que le Bitcoin qui est si polluant, mais tout de même. Et puis ces dizaines de milliers d'emplois dans les banques ont une consommation de déchets électroniques et électriques, les fameux D3E, qui est absolument énorme. Je peux dire que j'ai fait une mission là-dessus récemment et c'est vrai que ça donne le tournis. Et puis, c'est encore sans compter que, contrairement à une idée parfois répandue, vos dépôts et vos placements, comme on le disait juste avant, ne restent pas dans un coffre-fort de votre banque. Ils financent à votre insu des activités économiques, que ce soit des entreprises, des États, des crédits immobiliers, dont vous auriez peut-être à rougir, et qui surtout émettent des gaz à effet de serre et ont un impact sur le réchauffement de la planète.
Aïe. Du coup, comment on peut minimiser cette gabégie, Hélène ?
Eh bien, premièrement, avec le zéro waste et la sobriété heureuse, on dépense moins. Du coup, première bonne nouvelle, on a besoin de moins d'argent.
Ok, plus d'argent. Voilà, problème réglé. On termine l'émission. Merci à tous nos...
Alors, deuxièmement, évidemment, on aura toujours des petites sommes à utiliser. Alors,
pour la monnaie, enfin tout ce que vous allez dépenser en local, utilisez la monnaie locale, bien sûr. Vous avez la Seine à Paris, vous en avez à Nantes, vous en avez à Toulouse, un petit peu partout en France. Je vous incite vraiment à regarder. Et si vous n'avez pas de monnaie locale encore à disposition, essayez plutôt d'utiliser du cash pour les petits volumes. Ça permet de se rendre compte déjà de ce qu'on dépense. Et puis surtout, on ne va pas utiliser sa carte bleue pour 5 euros à la boulangerie. Toutes ces connexions électriques, ces câbles, ce petit papier supplémentaire et ce CO2 additionnel juste pour 5 euros, non. Soyons sérieux, comme disait mon père, on utilise le cash pour les petites sommes, c'est mieux.
Je tiens à préciser quand même, oui, on est à Paris, mais la baguette ne coûte pas 5 euros hein, dans une boulangerie pour tous les auditeurs du
mais
sud de la France.
Mais je jette pas que
on est d'accord, baguettes. Mais il fallait le dire, je trouve que c'est important.
Soyons gourmands.
Vas-y, pardon, continue.
Et ensuite, évidemment que le cash, ça limite, enfin, ça peut avoir des problèmes face à la corruption et l'économie parallèle, mais ça, c'est un autre débat. Et puis surtout, s'il n'y avait que ça, finalement, le monde irait très bien. Troisièmement, alors idem pour les achats en ligne, on va les limiter. Pensez à Amazon Killer, par exemple, pour l'achat de vos livres et privilégiez encore une fois les achats locaux qui vont favoriser le commerce de proximité. Grand 4, on utilise bien sûr son argent consciemment sur des produits et services dont on a vraiment besoin, qui sont sains, écologiques et éthiques. Et Denis vous en donne des exemples concrets tous les jours sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller voir, surtout sur l'utilisation de votre argent. On a fait un post hier. Et enfin, cinquièmement bien sûr, on prend une banque éthique tant qu'on peut. Et sur ce point, je dois bien avouer que ça fait partie des deux seules choses où l'on perd en qualité de service en devenant zéro waste. Il faut être honnête, on ne met pas de poussière sous le tapis. Et c'est vrai qu'il y a le lombricompost en appartement dont je vous ai déjà parlé. Effectivement, c'est un effort. Vous allez le faire parce que vous avez envie d'apporter un bien-être supplémentaire pour vous-même et puis pour la planète en général. Et les services bancaires, c'est pareil. Autant tout le reste est simple, autant c'est vrai que sur les services bancaires, on en a parlé juste avant, la nef, bah, je me suis retrouvée en voulant bien faire face à une impossibilité parce que le service n'était pas encore suffisamment développé. Et donc, je me suis retournée vers le crédit coopératif, annoncé comme étant le moins pire, mais ayant tout de même une connexion directe avec Banque Populaire qui eux-mêmes financent des choses un peu cracra. Donc essayons d'être cohérents, d'avoir de la conviction de bout en bout, mais on doit bien avouer que c'est pas toujours simple. Alors pour le coup, essayez de voir ce qui existe et surtout d'utiliser au mieux votre argent, les placements. Et on parlera après de Bluebee certainement ou d'autres manières d'utiliser bien votre argent. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans le domaine bancaire. Et une autre fois, je vous parlerai de la crypto-monnaie écologique appelée la June.
La June, ça nous donne envie effectivement de faire une émission sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, vous vous souvenez de ce chiffre absolument hallucinant? Le Bitcoin, c'est la pollution de l'Irlande, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, alors que pour l'instant, c'est quelques milliers de personnes, centaines de milliers de personnes peut-être qui l'utilisent. Bref, on est toujours nous avec Romain Donne-Dieu. Effectivement, le sujet de la finance éthique et écologique est passionnant. Mais Romain, il ne porte pas seulement cette casquette de directeur régional de la NEF, il est venu aussi aujourd'hui nous parler d'une autre manière d'utiliser notre argent, et ça c'est grâce aux activités de Zest. Zest, qu'est-ce que c'est ?
Alors Zest, c'est une volonté de la NEF il y a 2 ans de ça d'accompagner justement les changements dans le domaine de la finance, parce que depuis quelques années maintenant, on voit émerger toute une manière différente de financer les projets, et c'est très bien. Et donc ça s'appelle le crowdfunding, la finance participative en français. Et donc on a voulu, nous, il y a 2 ans de ça, créer un outil de finance participative à la sauce NEF. À la sauce NEF, ça veut dire qu'ils permettent d'accompagner des projets qui font écho à ceux que j'évoquais tout à l'heure, donc là aussi, qui sont positifs pour l'environnement, pour les personnes, et de le faire sous forme de dons. Et donc ça, c'est complémentaire de l'outil de prêt, qui est l'outil historique de la NEF. Et Zest, c'est un moyen de collecter du don pour des associations, mais pas que, ça c'est important. Hein. On pense souvent que le don est associé aux associations, mais d'autres projets portés par d'autres structures juridiques peuvent aussi passer par Zest.
Ça va, de l'épicerie en vrac qui va faire plaisir à Hélène ou de la coopérative de production d'énergie renouvelable. Est-ce que tu as des exemples concrets de projets en ce moment qui sont financés sur Zest ?
Alors, l'épicerie en vrac, c'est un super exemple parce qu'on voit vraiment depuis quelques mois maintenant une émergence. Et d'ailleurs, c'est un réseau, le réseau vrac avec lequel on est très en lien à la nef, qui se structure, qui se développe. Il y a plus de 100 magasins sans épicerie fixe ou ambulante aujourd'hui en France qui sont là et d'autres projets qui continuent à arriver. Donc on a un certain nombre de projets qui ont été financés ou qui sont en cours de campagne d'épicerie en vrac. Ça va aussi être des projets d'associations de défense de l'environnement qui vont lever des fonds pour se financer. Et un grand succès, pour donner un exemple concret d'une campagne qui a été réalisée récemment, c'était une campagne de crowdfunding pour Alternatiba. Alternatiba, c'est ce mouvement citoyen qui vise à faire connaître un peu à tout un chacun, en organisant un Tour de France chaque année, faire connaître les alternatives, justement, pour sensibiliser les citoyens. Et on a près de 60 000 euros qui ont été levés grâce auprès de 3 000 personnes. Voilà, 60 000 euros auprès de 3 000 personnes. Lors d'une campagne qui a été réalisée courant 2017.
Ben voilà, génial, merci Romain. Pour les curieux, je vous invite à aller sur la plateforme de Zest, ça s'écrit Z-E-S-T-E, et ensuite c'est .coop. Nous, on vous donnera bien évidemment toutes ces informations sur la page Facebook de Ça commence par nous. Et nous, Romain, on se retrouve tout de suite après pour le débrief. Allez, on se refait une nouvelle pause musicale.
Tell me.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Toujours dans l'émission Ça commence par nous, je laisse le micro à Anne-Sophie du média positif One Art. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Julien. Alors moi j'ai décidé de vous parler de deux moyens de placer son argent ou de faire un don en faveur d'une agriculture, et d'entrepreneurs agricoles qui respectent la terre et son environnement.
Et tu nous parles d'abord de la foncière Terre de Liens.
Terre de Liens est un mouvement citoyen dont l'une des ambitions est de supprimer le poids de l'acquisition foncière pour les agriculteurs. C'est plus concrètement, donc effectivement, comme tu le disais, une foncière. Les fonds qui y sont placés sont directement affectés à l'achat de terres et de fermes pour y installer de jeunes producteurs ayant fait le choix d'une agriculture biologique et pratiquant la vente en circuit court, ou des agriculteurs déjà installés, respectant ces critères, mais qui veulent s'agrandir.
Et comment ça se passe pour les agriculteurs, du coup?
Alors, ces agriculteurs louent les terres à Terre de Liens en s'engageant à respecter les règles environnementales fixées par la foncière. La pratique d'une agriculture biologique, la préservation des haies, des mares, etc. En rendant ces installations possibles, votre épargne aide de façon très concrète à redynamiser les campagnes.
Et au-delà de donner du sens à son épargne, quels sont les avantages de placer son argent dans la foncière?
Eh bien, c'est la sécurité de placement. Parce que investir dans la terre présente peut-être une faible rentabilité, mais peu de risques, et par les temps d'instabilité financière, c'est particulièrement intéressant.
Oui, ça c'est vrai. Et un autre moyen d'utiliser son argent pour changer le monde, c'est Bluebees, une plateforme de crowdfunding au service de la transition écologique.
Alors en français, donc une plateforme de finances participatives destinée à promouvoir et faciliter la réalisation de projets qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durable, c'est-à-dire écologique, viable économiquement, source d'emploi et de liens sociaux.
Et pour ceux qui ne sont pas allés voir le documentaire « On a 20 ans pour changer le monde », c'est Maxime de Rostolan qui est l'initiateur de ce projet.
Oui, et c'est aussi le fondateur de Ferme d'Avenir, cette association qui promeut un nouveau mode d'agriculture à travers notamment l'agroécologie. C'est lui qui a inspiré, comme tu le disais, le documentaire sur la transition écologique « On a 20 ans pour changer le monde », encore sur les écrans. Maxime est parti du constat que les petits entrepreneurs agricoles ont un accès restreint ou compliqué au financement bancaire. Il a donc imaginé cette plateforme comme une solution pour ses projets liés à l'écologie, n'ayant pas trouvé de fonds auprès des banques.
Mais moi, ça m'intéresse. Comment ça marche?
Alors, tu peux prêter jusqu'à 20 ou 1000 euros, ou encore effectuer des dons à partir de 5 euros. Les prêteurs sont remboursés avec intérêt, environ 2%, suivant un calendrier bien défini. Quant aux dons, ils sont récompensés par des contreparties diverses et variées liées au projet.
Génial. Est-ce que tu as quelques exemples de projets actuels qui peuvent illustrer ce que t'es en train de, ce dont tu nous parles, pardon?
Alors, les activités financées vont du champ à l'assiette. Cela peut concerner une installation en maraîchage bio, la création de filières de recyclage, des start-up alimentaires, des magasins de producteurs locaux. Par exemple, en ce moment, vous pouvez prêter au Poireau de Marguerite, un magasin bio et local à Paris qui souhaite ouvrir une autre boutique. Vous pouvez aussi faire un don avec contrepartie à 30 producteurs ardéchois qui souhaitent s'associer et aménager un local pour ouvrir une boutique et vendre leurs produits. Et ils proposent en contrepartie, par exemple, un panier de produits et une visite découverte chez le producteur de votre choix. Donc vous avez plein d'autres projets sur Bluebees et vous pouvez voir une interview en vidéo de Maxime de Rostolan qui vous parle de tous ses projets.
Sur la magnifique plateforme oneart.fr, bien sûr, et on rediffusera, nous, ça sur notre groupe Facebook de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Toujours dans l'émission Ça commence par nous, aujourd'hui on parle de l'argent pour changer le monde. Et pour lancer ce débrief, moi la première question que je voulais vous poser, c'est vous, Hélène et Anne-Sophie, est-ce que vous saviez que l'argent, il avait un impact environnemental et social tellement fort? Et au-delà, Hélène, hein, tu as répondu en partie parce que tu disais que tu étais au crédit coopératif. Est-ce que vous avez pris des décisions par rapport à ça déjà?
Alors moi, j'étais au courant justement de cet impact. J'avais travaillé d'ailleurs au gouvernement argentin là-dessus, qui ont les mêmes problématiques par rapport à la Banque nationale. Et du coup, une des premières choses que j'ai faites en arrivant en France, au retour de mon expatriation, c'est justement de changer de banque et d'essayer d'aller à la nef sans succès et de passer au crédit coopératif. Mais là encore, comme on l'a vu, voilà, c'est pas tout rose non plus. Il y a encore du chemin à parcourir pour être sûr d'avoir une transparence totale sur votre argent. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut vraiment demander à nos conseillers bancaires où est placé notre argent. Et c'est à force, même si eux n'ont pas forcément la réponse tout de suite à notre question, et ben ça va finir par remonter tous les échelons de la hiérarchie et que toutes ces personnes qui décident un peu pour nous de où va notre argent commencent à s'y intéresser et vraiment se rendre compte que c'est un sujet vraiment clé pour moi. Moi j'ai investi tout dans l'asso et dans la boîte dans tous les cas, mais je sais que pour moi c'est un sujet clé et je ne laisserai pas de l'argent sur un livret dont je ne sais pas où ça va, même si bon, il est au livret. J'ai un livret quand même de développement durable et j'ai cru comprendre que bon, on en reparlera après, mais que c'était pas tout rose non plus.
Toi, Anne-Sophie?
Moi, pareil. Il est important pour moi de savoir où va mon argent et du coup, en tout cas, sur des petites sommes, sur des petits projets. Pouvoir placer une petite somme d'argent sur des plateformes comme Loobies et voir concrètement comment elle est utilisée, soit par des dons en contrepartie, soit par des remboursements de prêts. Je trouve ça super enrichissant.
Se ressaisir du pouvoir de notre argent, c'est incroyable. Vous, de votre côté, quel a été votre déclic? Quel jour vous vous êtes dit, mais tiens, on ne peut plus laisser faire ça. Et moi, j'ai envie de m'investir dans ce milieu et d'agir à mon échelle. Clémence se voit faire une tête. Tu essaies de remonter très, 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 très loin dans ta mémoire. Peut-être que Romain, en attendant, peut t'aider. Pourquoi avoir décidé de rejoindre la nef plutôt qu'une autre banque ou peut-être plutôt qu'un autre secteur d'activité?
Moi, ça s'est fait un peu au fil de mes études. J'étais en école de commerce, les cours de marketing ne me passionnaient pas particulièrement. Et du coup, plutôt que de rester un peu passif face à ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il existe comme alternative? Et je me suis rendu compte que dans les domaines de l'économie, il y avait des choses comme la microfinance, le commerce équitable, la finance solidaire qui existaient. Et j'ai atterri à la nef, en fait, après mes études. Et j'y bosse encore aujourd'hui. Donc... Ça a pris du sens au fil du temps, au fil de mes études.
Clémence, ça t'est revenu? Toujours
oui.
Pas
Du coup, moi, c'est un peu pareil. C'est au fil de mes études. Je me suis rendu compte, en fait, de l'impact environnemental de toutes les actions qu'on avait au quotidien. Donc, j'ai fait un parcours plutôt spécialisé sur l'impact environnemental des projets d'infrastructure au départ. Et je me suis retrouvée donc, dans une banque et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas le moyen de suivre en fait, les investissements, l'impact qu'avaient les différents investissements. On arrivait juste à exclure certains secteurs, c'est tout ce qu'on arrivait à faire. Et du coup, je me suis dit comment est-ce que je pouvais agir et c'est comme ça que je suis rentrée à Carbon 4 et on avait développé une méthodologie qui permettait en fait, de mesurer l'impact climat et la contribution à la transition énergétique, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, des investissements qu'on réalise.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, enfin, en tout cas, moi, mon déclic, il vient de successivement de toutes ces histoires qui ont, ces dernières années, les subprimes, et puis ensuite la Société Générale. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Est-ce que vous, avec votre expérience de spécialiste dans ce domaine, vous avez vu que les consciences, elles se sont éveillées et qu'il y a plein de gens qui se sont dit non, mais c'est pas possible? Est-ce que vous voyez un petit sursaut de la part des concitoyens français dans ce milieu-là? Ou est-ce que finalement, c'est passé complètement inaperçu et toutes les personnes qui bossent dans les banques se sont renversées l'année d'après, des beaux bonus et il n'y avait plus de problème? Romain?
Ouais, moi j'ai un souvenir, il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était exactement, mais il y avait Eric Cantona... qui avait lancé son appel à sortir l'argent des banques. Donc, c'était un peu contestataire et radical. Et face à cet appel-là, y a pas mal de personnes qui se sont dit « Mais OK, pourquoi pas, je pourrais suivre le mouvement, mais si j'enlève mon argent de ma banque, où est-ce que je le mets ?» Et donc, en cherchant sur Internet, il y en a certains qui ont atterri à la nef. Et on a eu une petite explosion de notre standard téléphonique, du coup, à ce moment-là. Donc, ça montre bien que... Il y a juste besoin parfois de nourrir un peu les personnes en information, en possibilité pour qu'elles passent le pas. Parce que changer de banque, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, même si ça a été beaucoup facilité depuis quelques mois maintenant.
Voilà. Je sais qu'Éric Cantona nous écoute d'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Salut Éric.
Et le remercier parce qu'à la suite de ça, il y a eu beaucoup de livres, dont le premier livre de La Relève et la Peste sur la monnaie. Qu'est-ce que, d'où ça vient et tout ce que ça comporte comme idéologie et comme concrètement les actions et ce que ça engendre au quotidien. Et du coup, c'est super important de se rendre compte de ça. Et surtout, je pense que les gens sont pas stupides et ils savent bien que, en fait, il y a un backlash, il y a un retour de son investissement. Ok, vous avez peut-être gagné, allez, 2 000-3 000 euros par an sur un super investissement juteux. Vous fermez les yeux, vous bouchez les oreilles, vous savez pas si ça a pas engendré la chute du Rana Plaza au Bangladesh ou une autre catastrophe écologique à l'autre bout du monde. Vous avez gagné vos 2 000-3 000 euros, mais finalement, ces 2 000-3 000 euros, vous les perdez, mais largement, sur la destruction de vos écosystèmes, de votre planète, de votre bien-être, de l'éducation de vos enfants, de votre santé à cause de la pollution. Voilà. Et du coup, finalement, investir dans une potentielle meilleure planète et surtout meilleure société pour nous, bah, ça vaut tout l'or du monde.
Vas-y.
Surtout qu'on réalise qu'on ne sait pas tout, on sait très peu de choses. Et on a nous-mêmes appris en off tout à l'heure avec Clémence que le livret développement durable était pas tellement très développement durable, en tout cas qu'à 10%, c'est ça, enfin, tu vas nous en dire un peu plus.
Oui, c'est ça. C'est l'État français, Bruno Le Maire, qui récemment l'a mentionné. Sur les 4 dernières années, il y a 10% du livret développement durable et solidaire qui a été orienté vers des financements qui favorisent la transition énergétique. Donc ça fait à peu près 10 milliards sur les 100 milliards que exactement. Moi, je voulais juste revenir sur un point, c'est que je trouve que les citoyens commencent un petit peu à se mobiliser. Mais en fait, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément une éducation financière très poussée. En travaillant sur ce secteur-là, moi, j'ai appris énormément de choses parce que c'est mon travail, je suis payée pour ça. Mais ça demande aussi un effort à chacun de regarder et ça demande du temps. Et c'est vrai qu'il faut que chacun se saisisse de ces sujets-là et pose la question. Oui. Mais il faut qu'on mette en place des formations pour que tout le monde soit conscient.
Justement, là, je voulais profiter des 2 dernières minutes qu'on avait. Les gens qui nous ont écoutés, qui se sont dit « Non, mais ils ont raison, je ne peux pas continuer à avoir mon argent s'ils nous regardent aussi au Crédit Agricole, à la BNP, etc. etc. » Mais ils ont peur, ils n'ont pas envie de déplacer tout d'un coup tout leur argent, de changer radicalement leurs habitudes. Quels sont les premiers gestes qu'ils pourraient mettre en place? Tu parlais d'éducation, c'est peut-être pas bête. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller collecter ces informations? Et puis ensuite, comment on commence à jouer un peu avec son argent, mais dans le bon sens du terme?
Alors, moi, je sais qu'il y a des MOOC qui sont disponibles. Donc, des petits cours qui sont en ligne sur comment financer la transition énergétique. Donc, je pense que ça peut être une première étape. C'est tout à fait abordable pour tout citoyen qui souhaite s'informer un peu sur ce sujet-là.
D'autres idées? Moi, je pense notamment à deux choses. La première, c'est des vidéos de DataGueule. Je ne sais pas si vous connaissez ces vidéos DataGueule sur YouTube. Et ils ont une chaîne avec plein de sujets, mais notamment les banques. C'est des pastilles de 5 minutes qui sont hyper informatives et très, très factuelles. Donc, tout d'un coup, on se prend beaucoup de chiffres dans les dents et ça aide à y voir beaucoup plus clair. Je pense aussi au site Faire Finance France. Ça fait beaucoup de F. Faire Finance France. C'est porté notamment par les Amis de la Terre et eux, ils ont toute une étude pour référencer l'impact social des banques, leurs placements. Leur dernier travail a été de mettre en avant l'impact des banques qu'elles pouvaient avoir avec leur argent, notamment sur la colonisation d'Israël. Bon, c'est assez poussé. Si jamais vous voulez aller creuser ça, moi je vous invite à y jeter un tour. Faire Finance France. Voilà. D'autres pistes peut-être?
Être moins gourmand peut-être et plus patient. Effectivement, placer son argent sur des placements plus sûrs, type les foncières, type la nef, où on a une rentabilité moins importante, mais plus sûre, et qui en plus est porteur de sens. Quoi.
C'est quand même dingue de se dire que l'argent fait de l'argent, non? Moi, personnellement,
c'est hallucinant. C'est hallucinant de se dire qu'il y en a qui gagnent plus d'argent avec leurs intérêts que juste en travaillant et en produisant. Quoi. C'est un cercle vertueux pour eux, mais vicieux pour tout le reste de la planète et pour l'accroissement des injustices et le monétaire en faire partie. Moi, je trouve ça beau quelque part de se poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire de mon argent, sachant que 99% de la population n'a pas ces questions-là à se poser.
C'est vrai.
Donc si on a la chance de pouvoir se les poser, bah, creusons le sujet.
Clémence, le mot de la fin en 10 secondes.
Oui, je voulais juste te dire, en fait, c'est pas parce qu'on investit dans des entreprises qui sont bonnes pour l'environnement, pour le social également, que c'est forcément moins rentable. Au contraire, on peut être tout aussi rentable et peut-être même plus sur le long terme que des entreprises polluantes, en fait.
Et comme disait ma grand-mère, mamie Odette, ça ne sert à rien d'être le plus riche du cimetière. Voilà, ça c'est dit. Merci à tous pour votre intervention de qualité. Je suis très content de vous avoir reçu dans cette émission. Pour rappel, on a eu Clémence Lacharme qui vient du cabinet Carbone 4 et on a eu Romain Donne-Dieu de la Nef qui nous a également présenté Zest. Il y a bien évidemment avec moi l'équipe de choc, la fine équipe. On avait Anne-Sophie de Wanhart qui nous a partagé son bon plan, Hélène Dédény qui nous a donné son focus zéro déchet, Raphaël et Fabrice du côté de Rage.
Ça commence par nous.
Et voilà, ça commence par nous, c'est terminé. Petit message, vous avez un pouvoir énorme et ce pouvoir, il se trouve dans votre banque. Vous ne regarderez plus jamais votre carte bleue de la même manière après cette émission, je l'espère. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pouvez retrouver le podcast sur le groupe Facebook, ça commence par nous, mais aussi sur rage.fr et sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on sera en direct de la recyclerie et on parlera de consommation locale. Merci de nous avoir écoutés, je vous dis à samedi prochain, 13h, salut !